Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce débat du jour sur RFI. Plus de 3 semaines de mobilisation des gilets jaunes, pour la plupart pacifistes partout dans le pays. Et pourtant, une violence qui monte crescendo. Des images de chaos, notamment samedi dernier à Paris, ont fait le tour du monde et choqué une bonne partie des Français. Jets de pierre, grenades assourdissantes, jets de boulons, gaz lacrymogène, voitures brûlées, tirs de flashball avec de nombreux blessés et de nombreux dégâts matériels. Alors, à la veille d'un nouveau rassemblement prévu demain, samedi 8 décembre, dans la capitale française, eh bien, nous tenterons dans cette émission de comprendre et d'analyser les mécanismes qui poussent ces citoyens, ces hommes et ces femmes à utiliser la violence pour se faire entendre. Comment naissent ces émeutes? Avec quel message? Pour quelle réponse politique? Le gouvernement français a d'ailleurs changé de ton ces dernières heures avec un discours beaucoup plus répressif. Et puis, les médias, quel rôle joue la parole médiatique dans l'annonce et le commentaire de ces violences? La France en crise, à qui profite la violence? Tel est le sujet de notre discussion ce soir.
RFI.
Dans les studios de Radio France Internationale à Paris, Romain Huette, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'Université de Rennes, chercheur associé à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Vous dirigez également des recherches sur l'anthropologie de la violence. Et puis, Pierre Chartier, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorant en sciences du langage à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, vous étudiez les discours qui portent sur la violence contestataire. Première réaction, tout d'abord, ces images diffusées aujourd'hui sur Internet, puis reprises en boucle par les télés françaises, où l'on voit environ 150 lycéens agenouillés, les mains sur la tête, encerclés par des forces de l'ordre. Vidéo tournée près de Paris à Mantes-la-Jolie et authentifiée. Pour commencer, je vous demanderai une analyse de ces images. À qui profite cette mise en scène, par exemple, Romain Huette?
Alors bon, je sais pas exactement à qui profite cette mise en scène. En tout cas, on voit une image qui est déroutante qui ne peut faire que choquer et augmenter en fait le sentiment que ce qui est en train de se passer ici est absolument intolérable. En fait, pour moi, ce sont des images qui montent un pouvoir en déroute et qui manifestent exactement ce que, je crois, les gilets jaunes lui reprochent, c'est-à-dire la tendance à humilier, la tendance à mépriser. Bref, on a là l'image d'un pouvoir qui baisse et qui abaisse et qui est évidemment ne peut que provoquer un retour de la violence, parce que finalement au fond qu'est-ce que j'ai opposé à ces images là à part de montrer en fait tout simplement de en retour en miroir finalement la violence que cela me produit quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est des images qui sont évidemment tout à fait choquantes et qui illustrent tout à fait un pouvoir vacant quoi, un pouvoir qui est un petit peu dans la déroute parce qu'il ne contrôle plus ses forces de police.
Et vous Pierre Chartier, faut-il y voir une manipulation de l'opinion ou pas du tout?
Moi, je dirais pas qu'il y a une manipulation de l'opinion. Au contraire, je pense qu'il y a une communication qui est ici mal maîtrisée. Et d'ailleurs, on peut voir que la vidéo a été tournée par un fonctionnaire de police lui-même avec le petit commentaire de « Ah, c'est ça, une classe qui se tient bien ». Et donc, en fait, il y a un double message pour moi. Donc, le message envoyé aux lycéens et aux étudiants qui sont en train de manifester pour dire concrètement que vous êtes que ces manifestants-là sont pas à leur place dans la rue à manifester. Ils devraient donc en classe, gentiment, et se tenir en silence. Mais il y a aussi, on peut voir une vraie différenciation entre les gilets jaunes et les lycéens, puisque l'appareil répressif n'est pas du tout le même mis en place, puisque des images de... en effet, je suis assez d'accord avec Romain, où c'est très humiliant. On n'a pas vu ça avec les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes ne rentrent pas non plus dans la case des jeunes qui manifestent pour leurs droits.
Et leurs revendications ne sont pas forcément les mêmes. Romain Huette.
Oui, moi je pense que à la fois en fait il y a quelque chose de l'ordre évidemment de la communication, mais je suis pas sûr qu'elle soit non maîtrisée au sens où moi je pense qu'ils en avaient absolument aucune maîtrise sur le coup, c'est-à-dire qu'en fait on a là juste une illustration de quelque chose qui peut arriver, qui est arrivé en fait hier et qui arrive dans d'autres contextes, c'est-à-dire que quand vous faites des manifestations en fait des scènes d'humiliation, il y en a un certain nombre. Alors là celle-là elle est complètement choquante parce que évidemment en fait ça renvoie évidemment avec toute l'imagerie imagerie fasciste, avec voilà une mise à dossier de jeunes lycéens, voilà, et ça ne peut que frapper. Mais en revanche, en fait, les scènes d'humiliation dans les manifestations sont très très fréquentes, et ça montre aussi probablement en fait une certaine frustration des forces de police qui, bah, voilà, après aussi avoir été totalement débordées la semaine passée, j'imagine, ont accumulé aussi un certain nombre d'énergie.
Alors on a le sentiment, en tout cas là, dans cette crise sociétale là, que nous vivons, que l'enjeu passe évidemment par les images, par l'écrit, par Internet, mais c'est surtout de faire basculer l'opinion publique d'un côté ou de l'autre, côté gouvernemental ou en tout cas côté gilet jaune, et que tous les moyens sont bons.
Ouais, bon, on a là évidemment en fait un travail médiatique de préparation à un climat de guerre dans lequel en fait on monte spectaculairement la violence pour évidemment, j'imagine, produire un certain effet de peur, etc. Mais en dehors de ça, en fait, c'est pas ça le plus important, les scènes de violence qui se passent dans ce mouvement des Gilets jaunes. Je crois que ce qui est important de noter, c'est qu'avant toute chose, en fait, on a des gens qui ont été complètement invisibilisés depuis de très nombreuses années, à qui on ne donne pas véritablement la parole, qui sont globalement inaudibles, qui d'un coup se dressent devant une réalité bloquée, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de regarder en fait comment des gens prennent la parole, comment en fait il y a plein de scènes de parole qui se passent un peu partout en France, sur des ronds-points, dans des marches, dans des blocages. Évidemment, on ne retient que la dimension tout à fait spectaculaire de la violence. En même temps, bien sûr, elle effraye et elle exalte en même temps.
Alors intéressons-nous aux germes, en tout cas, de cette violence, de cette brutalité. D'abord, peut-être côté manifestant, est-ce que c'est le fait de ne plus avoir de mots, de plus trouver le mot pour exprimer sa souffrance, qu'à ce moment-là, la violence prend le dessus, Pierre Chartier?
On peut y voir en effet une sorte de discours non-verbal. D'ailleurs, on peut le voir dans le choix des cibles, où ça a été des boutiques de luxe, le choix de l'Élysée, donc des Champs-Élysées, là aussi, les boutiques qui sont... donc on a vu des opticiens où on sait à quel point les lunettes sont chères et sont aussi des produits de luxe aujourd'hui pour beaucoup de Français. Donc tout ça, finalement, porte un discours et un choix de dire nous attaquons finalement à ce qui représente nous, ce qui nous va pas aujourd'hui, ce qui nous convient pas. C'est la vie chère, c'est les enseignes capitalistes pour une partie des manifestants qui portent un discours anticapitaliste, et c'est le même processus lorsqu'il y a des affrontements avec les forces de police qui représentent l'État, et donc l'État c'est le gouvernement, et donc on va s'attaquer là aussi à ceux qui nous empêchent en fait de manifester et d'exprimer notre colère qu'on juge légitime.
Romain Huette, vous avez étudié l'origine des émeutes en France et je précise ailleurs dans le monde. Parlez-nous de ce sentiment peut-être de grandeur lorsqu'on passe le cap d'être émeutier. Dites-nous dans vos travaux ce que vivent ces personnes quand ils basculent, au moment où ils basculent dans la violence.
Alors bon, d'abord, je suis pas certain en fait que quand on a plus de mots pour se raconter, alors on passe par la violence. Je crois qu'au contraire, les Gilets jaunes ne manquent pas de mots pour dire ce qu'ils sont en train de vivre, ne manquent pas de mots pour raconter en fait leur sentiment d'injustice, pour raconter un certain nombre de revendications. Sauf qu'en fait, ce sont des mots qui n'empruntent pas nécessairement le lexique politique auquel on s'est habitué, et que donc de fait, évidemment, il y a une autre police qui existe, c'est quand même la police des récits, c'est-à-dire que pour que je sois entendu, il faut que j'arrive à formuler ma revendication dans la rationalité poétique habituelle, quoi.
Oui, et c'est comme si, si l'on restait au stade verbal, en fait, on n'était pas entendu.
Ah oui, mais complètement, mais parce que en même temps, si je dois m'exprimer pour me raconter dans ce que j'ai à revendiquer, ou pour me raconter en fait pour raconter la négativité de ma vie, je dois passer par quoi? Je dois m'exprimer par le langage du pouvoir. Et vous avez bien vu qu'il y a toute une série de stigmatisations des Gilets jaunes qui revendiquent des choses très très hétérogènes, dans lesquelles il y a parfois un mépris de classe sociale qui est assez évident. Et donc évidemment, pour prendre cette scène de la parole, c'est très compliqué, quoi. Il faut un mouvement à la fois massif. Et là, d'une certaine manière, en fait, à la fois c'est un mouvement massif, à la fois c'est un mouvement qui prend une forme assez spectaculaire. Et donc, du coup, évidemment, en fait, ça provoque des réactions. Sur le coup, c'est assez rare qu'en fait qu'une émeute ait autant d'effets sur le coup positif d'un point de vue politique.
Et parlez-nous du déclencheur là, de cette envie de prendre le pouvoir sur le pouvoir.
Moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est que une émeute, ça ne répond pas nécessairement à des idées politiques. Bien sûr qu'il y a toute une série de choses qui justifient en fait le passage à la violence, mais je crois surtout que c'est ce que l'on vit à l'intérieur même d'une émeute. Et je crois qu'une des premières choses qu'on est en train de vivre, c'est que d'un coup, eh bien, l'épreuve réelle du pouvoir, on vit un peu cette épreuve réelle du pouvoir. C'est-à-dire que, si vous voulez, à force d'être habitué à la fois à être invisible, à être inaudible, ou alors à ne pas vraiment en fait dans nos actions quotidiennes avoir d'effet sur le réel, là soudainement quand vous faites une émeute, bah, vous objectivez le pouvoir. Objectiver le pouvoir, c'est quoi? C'est vous entrez en contact avec lui. C'est un pouvoir qui est pas très malin sur le coup, parce que c'est un pouvoir qui va vous matraquer, c'est un pouvoir qui va vous courir après, c'est un pouvoir qui va pouvoir user de violence. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, le pouvoir en fait on le saisit pas nécessairement. C'est-à-dire qu'en fait il est beaucoup plus diffus, il est beaucoup plus indéchiffrable. C'est difficile en fait de le cerner. Là ici, quand vous êtes dans la rue, vous le voyez vraiment agir sur vous, et sur le coup là, vous pouvez le mettre en déroute aussi, c'est-à-dire qu'il vous court après, il est lent pour se déplacer, il a du mal à vous suivre, il est aussi débordé. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans en fait, sur le coup, ce que je suis en train de faire ici, j'en vois les conséquences directement quoi. Je vois en fait même dans le paysage le fait de casser, le fait d'avoir des voitures qui brûlent, etc. J'ai un paysage désorganisé je vois l'effet que je produis sur le réel. Quoi.
Et vous, Pierre Chartier, à travers vos travaux, vous partagez cette idée de Romain Huet?
Oui, tout à fait. On peut voir de toute façon que l'émeute, généralement, a été provoquée, on voit historiquement, par un événement déclencheur, mais c'est un événement déclencheur qui n'explique pas en lui-même toutes les raisons en fait des émeutes. Et pour revenir sur l'aspect complètement décrédibilatoire, j'ai envie de dire, de l'émeute, de la violence. On le voit en fait qu'elles sont complètement décrédibilisées par les médias et cette histoire du discours notamment, parce qu'on va dire par exemple les revendications ont été inaudibles à cause du fracas des affrontements, à cause des violences. Et donc en fait on voit bien que les violences enlèvent toute forme de discours audible de la part du pouvoir et donc des médias. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important en fait de ne pas tomber dans le piège de la stigmatisation de la violence, un piège qui est donné par le gouvernement et qui est largement rediffusé par les médias. Ça date déjà depuis les années 80 avec les premières émeutes des banlieues notamment.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Avec deux universitaires ici, Romain Huet, Pierre Chartier. Alors les médias, vous en parliez. On comprend bien aussi que les manifestants ont besoin de couverture médiatique pour parfois, ou en tout cas obtenir victoire, ou en tout cas recul politique. D'où l'intérêt d'interroger la place de cette violence dans les discours médiatiques, Pierre Chartier.
On peut voir, il y a les travaux de Patrick Champagne notamment, où il explique en analysant donc une manifestation des agriculteurs à Paris, où il explique bien en fait que sans la couverture médiatique, la manifestation en fait a peu de chances d'obtenir satisfaction. Les revendications finalement vont rester assez inaudibles. Et en même temps, il y a quelque chose de circulaire, puisque les médias aujourd'hui ont besoin de ces couvertures, de ces manifestations et aussi de violence. Il y a une appétence pour la violence, ça c'est Yves Michaud qui l'explique très bien dans son livre La Violence, où il explique que la violence attirant finalement l'attention, et on peut le voir aujourd'hui avec les gilets jaunes, les images de violence qui tournent en boucle à la télévision, c'est assez impressionnant, puisqu'au final ça concerne principalement Paris, quelques villes, mais vraiment quelques villes de province, c'est vraiment une échelle moindre, et pourtant on ne parle que de ça, on a l'impression que c'est toute la France qui est en situation insurrectionnelle, alors que c'est loin d'être le cas. Donc cette appétence qu'ont les médias provoque en même temps finalement les violences dans les manifestations à certains moments, puisque pour se faire entendre, pour être audible et pour être, on va dire, pris au sérieux, plus le niveau de violence sera élevé, plus ce sera le cas.
On a vu également que le discours politique avait évolué, en tout cas là ces dernières heures. On voit que l'exécutif, en tout cas par la voix du ministre de l'Intérieur, cherche à décourager les manifestants. Comment vous analysez ce changement de discours politique, Romain Huette?
Bon, c'est un petit peu difficile à analyser parce qu'on est vraiment en train de vivre en ce moment, mais bon, en tout cas, clairement, il y a une...
Est-ce que c'est un schéma déjà connu ou vu?
En tout cas, il y a clairement en fait un climat de préparation qui, enfin, un climat préparatoire en fait à la fois des violences extrêmes, mais qui viendrait aussi, bon, bien sûr, à la fois dissuader et puis probablement excuser un certain nombre de débordements, parce que il y a de fortes chances aussi que qu'évidemment en fait la gestion de l'ordre soit pose problème dans un certain nombre de cas, et qu'évidemment en fait en essayant de monter spectaculairement en fait cette violence qui est supposée advenir demain. On ne fait que tout simplement à la fois créer ce climat de peur et excuser probablement en fait les problèmes que l'on rencontrera demain.
Et vous, Pierre Chartier?
Oui, pardon. D'ailleurs, c'est un schéma qu'on voit très régulièrement.
Pierre Chartier, en direct de Lorient, on va rétablir la ligne d'ici quelques instants. Pensez-vous par ailleurs, Romain Huette, que cette histoire de l'opinion publique, à travers toutes ces images, tout ce qu'on dit, est-ce que cette opinion pourrait changer de camp? Est-ce que finalement Emmanuel Macron, qui on l'a vu, est en difficulté, pourrait aussi se refaire une santé en insistant sur le maintien de l'ordre public si demain les violences sont extrêmement graves?
Bah, c'est sûr qu'en fait, à focaliser notre attention sur la violence, on oublie en fait ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que les gens sont en train de raconter, comment ils sont en train d'exposer en fait à la vue de tous leur vie et des vies en fait qui sont en difficulté, une réalité qui est un peu bloquée, et un mouvement en fait qui se dresse face à cela, quoi. Et ça, en fait, on n'en parle presque plus, ou en tout cas on se polarise évidemment sur tout ce qui est spectaculaire, sur les scènes spectaculaires. Ce qui est pas tout à fait étonnant, parce que voilà, on a besoin en fait d'un événement, alors que évidemment c'est beaucoup plus, ça demande plus de temps d'aller dans les réunions, de voir ce que les uns et les autres racontent. Moi, j'ai pu aller à Rennes à une réunion où on entend des aides-soignantes qui sont en train de raconter leur vie au quotidien. Chacune de ces professions vient exposer en fait à la fois non seulement en fait ce qui ne leur va pas dans leur propre vie, mais aussi en fait viennent dire ce qu'ils attendent d'une vie souhaitable, quoi. Ils viennent dire des idées de la justice, de ce que c'est que l'égalité, de ce que c'est. Et ça, c'est, je crois, le plus important.
Pierre Chartier, vous vouliez reprendre le fil de votre pensée?
Oui, je vais essayer, en tout cas. Donc oui, je parlais donc du processus qu'on peut voir lorsque les chiffres des interpellés et des blessés sont donnés à chaque fin de manifestation. On va vous donner donc le nombre global. Je donne par exemple, voilà, il y a eu 70 blessés, dont... Et là, on va vous donner le chiffre de la police. Donc, généralement, ça va être dont 3 policiers. Et donc, on voit bien que l'angle qui est mis en exergue, c'est bien la police. Donc, parce qu'en fait, on ne va jamais dire il y a 50 blessés, dont 48 manifestants. Non, ça va être toujours dont 2 policiers. Donc, on voit bien que ce qui est mis en avant, c'est la police, c'est les forces de l'ordre, mais sans interroger derrière déjà les raisons des blessures. Ça peut arriver que les policiers se blessent tout seuls, ça s'est même déjà vu et ça a été montré souvent sur Internet. Mais surtout, ça montre bien qu'il y a une vraie différenciation entre la violence qui serait illégitime des manifestants et la violence légitime qu'on appelle d'ailleurs jamais violence, qu'on va dire force, etc.
Pour conclure, juste en quelques mots, Pierre Chartier, question difficile, hein, sans faire de fiction, mais votre sentiment pour demain, Paris, capitale de la France?
Mon sentiment, il est assez mitigé, mais c'est un sentiment qui est très qui est global en fait sur ce mouvement. Il est vraiment protéiforme. On a du mal à lui coller d'ailleurs un adjectif global. Je pense que ce qu'essaye de faire le gouvernement aujourd'hui, on le voit par Christophe Castaner, qui essaye vraiment de rassurer, de dire oui, on va y arriver.
Rapidement.
Je pense que vraiment, ça va être au moins pire que, au moins comme la semaine dernière, si ce n'est pire.
Et vous, Romain Huette?
Non, mais toute la question est de savoir combien il y aura de personnes dans la rue et surtout de moi j'espère seulement qu'on arrivera en fait à dépasser la scène spectaculaire pour s'interroger sur le fond de quel genre de transformation on est en train de vivre nous en tant que société, et c'est ça le plus important.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous où que vous soyez sur la planète de nous avoir écoutés. Bonne soirée à l'écoute de Radio France Internationale.